Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
De la Tunisie au Yémen, révolution arabe, la grande désillusion. On en parle 7 ans après le déclenchement du soulèvement populaire qui marqua le début des printemps arabes. C'était en Tunisie, une Tunisie qui est de nouveau le théâtre d'importantes manifestations. Pour en parler, je suis en compagnie d'Anne-Clémentine Larocque, maître de conférences en questions internationales à Sciences Po. Vous publiez l'islamisme au pouvoir aux presses universitaires de France. À côté de vous se trouve Pierre Vermeyren. Bonjour, vous êtes professeur d'histoire contemporaine à Paris, un spécialiste du Maghreb. Vous avez notamment publié Le choc des décolonisations chez Odile Jacob. Lorsque l'on évoque la désillusion des printemps arabes, qu'est-ce que ça suscite en vous, Pierre Vermeyren?
La désillusion au sud, vous parlez, je pense, parce qu'il y a une désillusion aussi en Europe. Au sud, bien sûr, cette désillusion, elle est forte à la mesure de la grande espérance qui avait été levée en 2011 et qui, pour la première fois, avait donné le pouvoir et la parole et même la visibilité à des foules arabes démocratiques, en tout cas à travers leur slogan, à cette jeunesse qui avait montré qu'elle n'en pouvait plus de subir le joug des États, des religieux, des généraux, etc. Donc il y a eu un grand moment révolutionnaire de joie. Mais ce grand moment révolutionnaire, il a éclaté sans organisation, sans leader, sans parti. C'était d'ailleurs sa nouveauté et c'est pour ça qu'il a surpris tout le monde. Et depuis, évidemment, dans un premier temps, les vieilles forces politiques, qu'elles soient islamistes d'un côté ou qu'elles soient nationalistes ou de gauche, se sont emparées. Donc les vieux appareils politiques qui avaient été vraiment combattus, réduits, mis dans le coin des différents États par des dictatures, se sont réveillés. Donc souvent des militants ou des cadres politiques qui faisaient de la politique depuis 30, 40 ou 50 ans, qui n'avaient jamais participé aux affaires et qui se sont jetés sur les jeunes républiques ou les jeunes États en reconstruction.
Ils sont à nouveau là.
Ils sont là, ils sont
avec quand
là.
Même des différences donc en fonction des pays, de ces pays qui ont connu les printemps arabes, Pierre Vermeyren.
Oui. Et donc, vous me parliez de la désillusion. La désillusion, elle vient du fait que les foules révolutionnaires n'ont pas accédé au pouvoir. Les islamistes ont accédé au pouvoir, vous venez d'en parler. Les militaires l'ont repris, parfois, de manière très brutale. D'autres formations politiques, on l'a vu en Tunisie, ont aussi, à leur manière, tiré les marrons du feu. C'est d'ailleurs l'expérience tunisienne qui est évidemment la plus convaincante et en dépit des difficultés immense, social, sécuritaire et autres. Il y a vraiment un grand espoir en Tunisie qui demeure. La flamme brûle en Tunisie. Bon, mais ailleurs, effectivement, je dirais même en Tunisie, la faiblesse fondamentale des printemps arabes, c'est le résultat de la dictature de 50 à 60 ans de dictature pendant lesquels on a détruit les élites, on a détruit les partis, on a détruit les intellectuels, on a détruit les comportements ou les tendances démocratiques, et vous ne pouvez pas reconstituer cela en quelques années. Donc il y a vraiment un problème de personnel politique très important. Une nouvelle génération n'est pas encore née.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, absolument. Moi, je trouve qu'effectivement, les générations qui ont fait la révolution n'ont pas du tout le même background, évidemment, que celles qui sont au pouvoir actuellement.
Le même héritage.
Exactement. Quand on prend, par exemple, l'exemple de la Tunisie, l'ère bourguibienne, Bourguiba, a quand même extrêmement marqué les choses. Et finalement, depuis 2011, on discute, c'est comme une forme de catharsis de ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que là, on va voir les langues qui se délient, mais finalement, ça aurait pu se faire, mais en dehors, finalement, de l'Assemblée nationale constituante. Donc, ça aurait pu aussi s'établir de manière plus claire par rapport aux politiques et avoir des effets sur le politique qui soient plus significatifs.
Donc ça, c'est vrai en Tunisie, c'est vrai également de l'Égypte, où là, on a aujourd'hui à nouveau un régime de dictature et une alternative qui semble faible, étouffée, mise en prison, Pierre Vermeyren.
Oui, l'Égypte peine à sortir de son tête-à-tête mortifère qui remonte aux années 50 entre les frères musulmans d'une part, dont les tendances démocratiques n'ont pas été démontrées par leur passage au pouvoir, et effectivement ce régime militaire républicain dirigé d'une main de fer par l'armée, par un certain nombre d'officiers, qui maintiennent en fait une poudrière sous pression. poudrière dont on voit régulièrement certains effets à travers des attentats, à travers des églises qui brûlent, les coptes, la communauté copte étant en première ligne. Donc on est effectivement dans une situation qui est presque pire que celle des années Moubarak, parce que Moubarak finalement c'était, il y avait un côté dictature très dur, hein, notamment avec la sécurité d'État, mais il y avait quand même un côté dictature sécurité, enfin bon enfant par certains côtés. Alors que là on est dans le dur, il y a eu des milliers de morts, la répression, il y a des dizaines de milliers de prisonniers, les frères musulmans sont vraiment devenus les ennemis à abattre, et de ce fait d'autres groupes islamistes ont surgi, les djihadistes notamment dans le Sinaï. Donc la situation au milieu de tout ça, des forces démocratiques, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est extrêmement faible.
Et le point commun de ces différents pays, c'est également d'avoir une situation économique qui ne s'améliore pas, voire une situation économique qui plonge. Alors on a parlé par exemple de la disparition presque complète du tourisme en Égypte, même s'il y a, il y aurait un retour dans certaines régions. Il y a eu la question du tourisme également en Tunisie. Bref, on a en tout cas une situation qui, sur le plan économique, laisse vraiment à désirer.
Oui, si vous voulez, le tourisme, il faut lui accorder la place qu'il a, c'est-à-dire c'est une place mineure malgré tout. C'est une industrie de main-d'œuvre, bien sûr, localement, dans, à Assouan ou à Hammamet, dans certaines villes du monde arabe, bien sûr. Mais ça reste quelque chose de mineur. En revanche, le problème fondamental, c'est là aussi, il n'y a pas eu de réflexion.
C'est quand même, pardonnez-moi, je vous coupe. Non, c'est entre 8 et 15% du PIB en fonction des pays. Donc c'est une minorité
de ces pays-là, hein, parce oui, que la Syrie, la Libye, l'Algérie, il n'y a jamais eu de touristes.
Bien sûr. Oui, voilà. On s'est même débrouillé pour qu'il n'y en ait pas.
Quelques pays.
Mais oui. Lorsque vous avez de 8 à 15% du PIB, si ce pourcentage devient nul, ça correspond à peu près autant de chômeurs. Et donc là, on voit bien que ça n'est pas quelque chose, malgré tout, de marginal.
Non, c'est pas marginal, mais c'est pas non plus central, si vous voulez. Parce que ce qui est central, c'est l'incapacité de ces pays à s'industrialiser. Il y a eu une industrialisation qui a été lancée dans les années 60-70. Et elle a été littéralement... d'abord, elle a été prise en charge par l'État. On est rentré dans des économies de type planificatrice, etc. Et puis, le choc libéral des années 80-90 s'est traduit par des accords de libre-échange et par le laminage de cette industrie dans ces pays qui, aujourd'hui, sont des grands importateurs de produits chinois. Donc, structurellement, il y a un problème fondamental, c'est-à-dire que ces pays qui consomment avant tout des produits de base ne les produisent pas. Et donc, tant que cette équation, avec l'aide de l'Europe, parce que ça peut difficilement se passer en dehors de l'Europe, n'est pas résolu, on aura structurellement un chômage de masse considérable.
Anne-Clémentine Larocque.
Oui, c'était juste pour compléter. Effectivement, le tourisme reste quand même effectivement un baromètre de l'attractivité en fait d'un pays, et donc ça a quand même des conséquences au-delà même du tourisme, mais sur la capacité à pouvoir investir dans ce pays. Ce qui aujourd'hui est le problème, notamment, on l'a vu. En Tunisie. Après aussi, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez aussi certaines grandes familles dans l'économie marocaine notamment ou égyptienne qui ont vraiment la main sur des secteurs entiers, sur des pans entiers de l'économie et qui n'arrivent pas justement à ouvrir et à diversifier au niveau des gens qui peuvent en bénéficier.
Continuons ce tour d'horizon de ces printemps arabes et de leurs conséquences avec un pays qui, là, malheureusement, a connu un printemps arabe extrêmement spécifique. Je pense à la Syrie. Votre point de vue, Pierre Vermeeren, sur la situation actuelle en Syrie et sur les différents scénarios pour la suite.
Bon, écoutez, malheureusement, les historiens ne sont pas très bons en prédiction. Je dirais pas plus que les autres, d'ailleurs. Non, ce qu'il y a, c'est que Bachar el-Assad a gagné la guerre. C'était inattendu, mais il l'a gagné avec l'aide de ses alliés russes et iraniens. La moitié de la population syrienne, pratiquement, se trouve à l'étranger ou au minimum a été déplacée. Le pays est occupé par des armées ou par des armées alliées, des armées hostiles, des armées libres comme les Kurdes, etc. Donc le pays est en partie détruit. Hein, un certain nombre de grandes villes sont à plat. L'économie est au point mort. Bien sûr, on est dans une situation catastrophique. Là, c'est vraiment le printemps arabe. C'est terminé par une tragédie. Hein, ce que l'Irak avait connu, la Syrie à son tour, enfin ce que le Liban aussi avait connu dans les années 70-80, la Syrie vient de le traverser. C'est une tragédie digne de la Deuxième Guerre mondiale à l'échelle de ce pays. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, tout est à reconstruire. Les alliés au sens de la Deuxième Guerre mondiale ou de la guerre froide, évidemment, ne sont pas très chauds pour aider le pays qui est aux mains de celui qu'ils ont combattu. Les Russes ont-ils les moyens et la volonté de reconstruire ce pays, peut-être avec l'aide des Chinois, mais enfin, pour l'instant, la Syrie reste la grande tragédie géopolitique de la région, et c'est en même temps le nœud du Moyen-Orient. Tout se déroule là, parce que tous les intérêts et toutes les ingérences les plus brutales se sont données libre champ dans ce pays. Après, si vous voulez, la situation reste entièrement dramatique. Et en plus,
je vais embêter l'historien que vous êtes. Vous dites que vous n'êtes pas très fort, vous, les historiens, en matière de prévision, mais justement le fait que toute cette tragédie, finalement, est effectivement un point de convergence en Syrie, était-ce prévisible ?
Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que c'est la rencontre, si vous voulez. Bon, depuis la guerre du Liban, d'abord, le Liban est quand même très très lié au territoire syrien. Les Libanais ne m'en voudront pas de dire ça. Historiquement, on peut pas dire le contraire. La guerre du Liban, déjà, avait été une petite répétition générale à petite échelle de ce qui s'est passé en Syrie 25 ans plus tard. C'était déjà le Liban, effectivement, un lieu dans lequel s'était concentré, par exemple, la guerre froide, des conflits déjà religieux, etc. En Syrie, on a vu le choc, si vous voulez, entre l'Iran, principalement, soutien du régime, et l'Arabie Saoudite, défenseur du camp sunnite. Donc on a l'épicentre du combat entre... On a eu, pendant 5 ans, l'épicentre du combat entre la principale puissance sunnite et la principale puissance chiite. On a aussi vu réactiver la guerre froide, puisqu'on a eu l'alliance de... On a eu d'un côté la Russie et de l'autre côté les alliés occidentaux, États-Unis et France en tête. Donc voilà, ça, pour s'en tenir à cela. Hein. Alors évidemment avec les ingérences de tous les autres États de la région, la Turquie qui s'est rêvée en grande puissance dirigée par les frères musulmans et qui s'est dit qu'enfin elle allait mettre la main sur ce pays, le faire rentrer dans sa grande alliance avec des rêves de reconstitution d'empire.
Bon, il y a tout ça à jouer. Vous mettez ça à l'imparfait, ça veut dire qu'aujourd'hui ça n'est plus le scénario plausible à la fois en Turquie et à l'extérieur ?
Oui, bien sûr. Je vous rappelle que Bachar el-Assad a gagné la guerre, qu'il va maintenant...
Vous avez rappelé aussi qu'il ne l'avait pas gagné seul.
Peut-être, bien sûr, mais il n'a jamais été seul. Peut-être que, évidemment, il va partir dans les années qui viennent, il va peut-être être tué ou il va être invité à quitter le territoire. Mais enfin, en tout cas, son camp, c'est-à-dire l'appareil d'État bassiste historique, va rester probablement maintenant aux affaires pour longtemps. Donc voilà, c'est un fait. Donc si vous voulez, les Turcs, évidemment, ayant aidé les différentes forces en présence, y compris l'État islamique, ne vont pas maintenant pouvoir faire des offres de services très intéressantes, même si par ailleurs, pour se protéger, ils se rapprochent des Russes.
Un mot à ce sujet.
Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, la Syrie a vraiment été le centre, la vitrine de tous les clivages idéologiques du monde entier, à un moment donné. C'est-à-dire qu'on avait tous les acteurs, mis à part les grands acteurs économiques comme la Chine, par exemple, ou très très indirectement, mais ça n'a pas vraiment été, elle n'a pas été vraiment concernée, ou le Brésil. On a véritablement donc cette chose-là qui arrive. Il faut dire
oui,
aussi
alors qu'auparavant, ça n'était pas un pays qui pesait, sauf erreur de ma part, sur le plan géopolitique.
Non, mais oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes quand même aussi dans cette partie qui a quand même été organisée, façonnée par les Français et par les Anglais. Hein, ça explique où, etc. On va pas revenir là-dessus.
Si on peut peut-être juste rappeler rapidement ce qu'est cette ligne Sykes-Picot et dans quelles conditions elle a été importante pour l'avenir.
Sykes-Picot, c'est 1916 et c'est un accord secret donc qui a été établi entre Sykes et Picot, donc un Anglais et un Français. Et l'objectif était donc de se répartir, de démarquer et de mettre en place des limites géographiques, donc des frontières, sur un territoire qui devait être justement le territoire qui appartenait à l'Empire ottoman, qui était en train justement de déliquesser. Et à partir de ce moment-là, on va créer une zone A, une zone B, et des pays vont émerger de ces accords aussi Sykes-Picot.
Et justement, on interpelle souvent les historiens Pierre Vermeeren sur la manière dont le passé et en quelque sorte le futur en germe. Dans quelle mesure, à la fois, la manière dont les Occidentaux ont partagé cette région du monde, dans quelle mesure la décolonisation qui s'en est suivie peut expliquer ce à quoi on assiste?
Alors, c'est très bien de partir effectivement de Sykes-Picot, mais ensuite il y a eu, comme vous l'avez dit, la colonisation directe ou indirecte du Moyen-Orient par la France et la Grande-Bretagne au lendemain de la guerre de 14. Et puis il y a eu la création d'Israël au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La création d'Israël, le départ de la France, l'indépendance du Liban, puis de la Syrie. Et là, il s'en est suivi une situation très complexe, c'est-à-dire que les Arabes sont entrés en guerre structurellement contre Israël, plusieurs guerres, 48, 56, 67, 73, etc. Or, dans les années 70, en pleine guerre froide, les Égyptiens décident de changer d'alliance, se rapprochent des États-Unis, abandonnent le camp de la résistance arabe et la proximité de l'Union soviétique, se rapprochent des Américains, et c'est la Syrie qui devient le chef des pays du front, c'est-à-dire les pays de la résistance arabe face à Israël. Mais en réalité, c'est là que la famille Assad n'est pas très claire. En réalité, ils se présentent comme les meilleurs défenseurs des Arabes face à Israël et les défenseurs des Palestiniens. Ils abritent sur leur sol, dans leur capitale, tous les groupes les plus radicaux de la défense palestinienne. Et en réalité, l'objectif du père Assad, c'est de mettre la main sur le Liban. Et donc, ils profitent de la guerre du Liban qui éclate en 1975 pour avancer ses pions dès 1976 pour occuper le Liban. À partir de 77, c'est légalisé, et il va rester là jusqu'à la fin du siècle. Et donc, si vous voulez, vous dites pourquoi ce pays est devenu l'épicentre, parce que ça a été un épicentre arabe, ça a été un épicentre de la guerre froide, ça a été l'épicentre de ce qui se passait chez son voisin libanais durant la fin du 20e siècle, et évidemment, il a accompli son forfait, c'est-à-dire mettre la main pratiquement sur le Liban. Il a été obligé de partir après l'assassinat de Hariri. Bon, et du coup, le projet d'Assad a été ruiné et le pays a été livré au chaos. Bon, sous son fils, mais ça fait longtemps que la Syrie est au cœur des tractations du Moyen-Orient.
Anne-Clémentine Larocque.
Et si on veut revenir d'ailleurs sur l'émergence du panislamisme et de l'islamisme, à ce moment-là, l'idéologie islamiste ne peut pas émerger, puisque le panarabisme va prendre le dessus, les nationalismes vont prendre le dessus, et donc cette idéologie née, entre guillemets, donc au 19e siècle, après en 1928 avec la confrérie des frères musulmans, n'arrive pas à émerger puisqu'on lui laisse pas la place. Ce qui peut expliquer, et faire un lien avec ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que en 2011, il y a une possibilité aussi de retour très forte de en tout cas ceux qui représentent cette idéologie qui a muté et qui n'a pas véritablement pu prendre le pouvoir ou en tout cas avoir la prétention d'accéder au pouvoir.
Justement, c'est ça en fait qui est frappant sur le plan historique, Pierre Vermeeren. On a à la fois dans le sillage de la décolonisation une phase de nationalisme qui ne touche pas uniquement d'ailleurs les pays que l'on vient de citer. Elle touche pas seulement à la fois le Maroc, la Tunisie. Bref, on a une vague qui est propre à cette région du globe, dont on pourrait faire le bilan. Il n'est pas forcément toujours un bilan globalement positif, comme on dit. Et puis à cette vague-là succède la vague de l'islamisme, avec là aussi une autre manière d'envisager l'association entre ces pays. Et ça, c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour l'historien que vous êtes.
Bien sûr, les décolonisations ont représenté, en gros, si vous voulez, l'avènement des États-nations. On est sorti des empires qui dominaient cette région depuis toujours, de l'empire musulman dirigé par les Turcs qui a disparu. On est sorti des empires coloniaux et on est rentré dans l'âge des États-nations. Ces États-nations ont été dirigées par des élites nationalistes, indépendantistes, qui ont expliqué à leur peuple qu'elles allaient maintenant promouvoir les libertés, l'éducation et le développement. 25 ans après, il n'y a eu ni liberté, ni développement, ni éducation. En tout cas, pas suffisamment. Mais même si des progrès ont été réalisés, incontestables. Mais par rapport à l'explosion démographique qui a eu lieu, je ne sais pas si le terme est bon, mais au moins il est clair, il n'y a pas eu une satisfaction des populations. Donc, cette insatisfaction...
Pardonnez-moi, je vous coupe, mais ce qui est déjà une première désillusion.
Bien sûr. Bien sûr, c'est une très grande désillusion qui donne naissance, qui donne un champ inespéré à l'islam politique. L'islam politique va ramasser la mise du nationalisme qui s'est, qui n'a pas été capable de tenir ses promesses, notamment en termes de développement économique et de réponse sociale.
Anne-Clémentine Larocque. Et on le voit très bien quand le 30 janvier 2011, Rachid Ranouchi, qui est le leader donc, des Nardas, des islamistes donc, tunisiens, arrive à l'aéroport de Tunis-Carthage, revient de son exil de 20 ans, il arrive en père providentiel et en possibilité, en fait, en nouvel espoir. C'est comme ça qu'ils se sont saisis des révolutions, en fait, les islamistes. C'est qu'ils ont incarné le nouvel espoir, même s'ils n'ont pas fait la révolution, ils s'en sont saisis derrière. C'est ça qu'il faut voir.
D'autant plus si vous voulez que ces islamistes, ils étaient nés, ils avaient créé leurs appareils, ils s'étaient développés dans les années 70, et la réponse des États a été de les emprisonner. C'est ce que Nasser avait fait dès le milieu des années 50, donc il n'avait pas attendu cette époque-là. Mais au Maghreb, par exemple, en Tunisie, la première tentative de prise du pouvoir, ça a été l'Algérie. La guerre civile des années 90 en Algérie, à partir de 1992, ça a été une tentative de prise du pouvoir. Alors, celle par les urnes ayant échoué, par la force, pour essayer de créer une république islamique sur le modèle chiite iranien. Ça n'a jamais réussi. Ça a fait dire à tous les appareils d'État européens, d'ailleurs, et pas seulement arabes, que la menace mortelle, c'était l'islamisme, qu'il fallait donc le combattre les armes à la main. C'est ce qui s'est passé dans les années 90 en Algérie. Et ça a permis à tous les autres États arabes d'enfermer leurs islamistes. Et donc, évidemment, à l'occasion inespérée et considérée par les frères musulmans comme providentielle, les printemps arabes ont permis de libérer tout ce petit monde qui s'est rué, évidemment, sur le champ politique.
Mais alors, est-ce qu'on peut considérer que ce qui s'est déroulé en Syrie avec la défaite de Daesh est justement à interpréter dans la même vague? C'est-à-dire qu'après avoir eu le nationalisme, après avoir eu l'islamisme, on assisterait aujourd'hui à la défaite de cet islamisme, qu'il soit un islam politique ou un islam à prétention donc de construction territoriale, avec toute la violence qui a accompagné la montée de Daesh, Pierre Vermeeren.
Il faut demander à ma collègue qui va sortir un livre bientôt sur la question.
Qui est sorti déjà ? L'islamisme au pouvoir.
Je crois qu'il sort dans 15 jours, mais bon.
Le 24 janvier.
Je l'ai sous les yeux en tout cas.
Voilà. Donc si vous voulez la question...
Vous pouvez le précommander.
Voilà.
Tout à fait.
La question, effectivement, les islamistes accédant au pouvoir dans un certain nombre d'États, ça n'a pas été très convaincant. Alors, si on met à part la Turquie, mais finalement, en Turquie, on a dit que c'était formidable, que c'était la démocratie chrétienne versus démocratie islamique au pouvoir.
Mais ça, c'était avant.
On voit que ça tourne très mal, finalement, puisque ça devient progressivement une forme de dictature religieuse. Mais pour ce qui est des pays arabes sunnites, ça n'a pas été convaincant. Les frères musulmans au pouvoir en Égypte, nulle part, en réalité, ils n'étaient prêts. Parce que, encore une fois, ce qui s'est passé en 2011, personne ne l'avait anticipé, personne ne l'avait vu venir. À commencer par les hommes politiques des frères musulmans, qui du coup sont arrivés au pouvoir, je dirais, de manière providentielle, et ils se sont dit, puisque Dieu pourvoira, puisqu'il ne nous a pas prévenu que cet événement allait intervenir, donc il va nous donner les moyens de diriger. Sauf que malheureusement, dans le monde contemporain, c'est une manière un peu courte de diriger, et elle a tourné très mal partout. Quand on leur a laissé les mains libres, au Maroc, ils n'ont jamais eu les mains libres, en Tunisie, ils étaient en coalition, en Libye, ils n'ont pas gagné les élections d'ailleurs, donc ils ont été mis dans des coalitions complexes, et finalement, ils se sont discrédités en prenant les armes, et en Égypte, leur politique de force s'est transformée en catastrophe pour eux-mêmes. Faut pas oublier que le premier coup d'État, avant celui de Sissi en Égypte, il avait été fait, ça avait été un coup d'État juridique, fait par Morsi, qui d'ailleurs, un an après, lui a valu sa liberté.
Anne-Clémentine Larocque, toujours sur cette même question, sur le fait de savoir si aujourd'hui c'est la parenthèse de l'islamisme qui se referme.
Alors déjà, quand vous comparez l'État islamique et les conséquences donc de son échec avec l'islamisme politique au Maroc, en Tunisie, en Égypte, et leur échec entre guillemets, effectivement, il faut faire une différence quand même entre le djihadisme et l'islamisme politique. sachant que c'est le même terreau idéologique, bien sûr. Il y a une volonté d'imposer l'islam et de mettre en place un État islamique à terme. Cependant, c'est pas du tout les mêmes moyens, c'est pas le même agenda. Hein, dans le temps, utilisé. Et c'est même pas, même aujourd'hui, au niveau de l'idéologie en tant que telle, on a quand même d'énormes différences. C'est ce que j'explique dans mon livre, c'est de montrer bien les séparations entre islamisme politique, djihadisme, salafisme. Voilà.
Et donc, certes, on a affaire effectivement à des choses très différentes, mais on a affaire aussi à différents types d'échecs. C'est un échec pour Daesh, c'est un échec pour l'islam politique en Égypte, en Tunisie. Je vais vous laisser poser vous-même vos mots sur la situation, mais on voit bien qu'en tout cas, c'est une forme qui semble ne pas avoir les résultats escomptés, en tout cas par ses promoteurs.
Oui, parce que ça répond à des frustrations très fortes. Ils n'ont pas pu exister, comme je le disais, pendant une cinquantaine d'années, donc ça a créé, entre guillemets, des monstres aussi. Je parle de l'État islamique, là. Quand vous dites c'est un échec de Daesh, oui, territorial. Attention, l'État islamique n'est pas mort, l'État islamique se réorganise, c'est ce qui fait sa force, il y a une hybridation qui se fait, et ils se réorganisent, là ils sont plutôt en train de dormir, ils se réorganisent dans les pays voisins, ils se réorganisent également dans les pays faillis, dans le Caucase par exemple, on peut avoir certaines cellules qui se développent, en Asie centrale également, en Afrique du Nord, pour parler d'ACMI, ACMI existe encore et tout à fait active au Sahel et même descend même au sud de l'Afrique subsaharienne, enfin au sud de l'ouest de l'Afrique subsaharienne. Donc c'est pas du tout, on n'est pas dans un échec total. On est dans un échec effectivement dans le projet territorial qui a été instauré en Syrie, en Irak. Par rapport justement donc à la Tunisie et au reste des pays qui sont dans un processus révolutionnaire, je dirais que l'islamisme pour le coup s'adapte. Est pragmatique. C'est ça qu'on a voulu, que moi en tout cas j'ai remarqué quand je suis allée parler avec les députés des Narda, les députés du PJD. Il y a une adaptation, un pragmatisme qui existe. Et aujourd'hui, alors on n'est pas forcément dans du post-islamisme comme en Turquie avec la KP, mais on a quand même des cadres qui ont compris qu'il fallait livrer un nouveau discours.
Pierre Vermeeren.
Oui, il faut être très prudent avec cette notion d'échec de l'islam politique. Il faut rappeler que après la guerre civile algérienne, en 2000, un certain nombre d'intellectuels français, parmi les meilleurs, ont dit que l'islam politique avait échoué et était condamné. L'année d'après, il y avait les attentats de New York et on est aujourd'hui en 2017. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'échec politique qui a été celui à la fois des islamistes, des frères musulmans quand ils ont été élus à diriger des pays et l'échec bien sûr tonitruant de l'État islamique qui s'est discrédité par sa barbarie et qui a perdu les armes à la main son petit État, même si effectivement ma collègue a raison, ça n'est pas fini. En revanche, ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est que l'islam politique, l'islamisation des esprits et des sociétés, elle est réalisée. C'est-à-dire que les sociétés du Maghreb et du Moyen-Orient, elles sont complètement prises par le conservatisme religieux et elles sont loin, non seulement elles ne sont pas prêtes d'en sortir, elles sont dedans. Alors c'est vrai qu'on voit par exemple que l'État le plus conservateur de la région, l'Arabie Saoudite, essaye un peu de sortir de la nasse parce qu'il sera piégé, mais en dehors de ce qui se passe dans ce pays, le moins qu'on puisse dire c'est que l'islam est dans les esprits, dans l'islamisme et dans les esprits et dans les sociétés.
Merci à tous les deux de nous avoir éclairés sur ce bilan des printemps arabes. Pierre Vermeeren, Le choc des décolonisations chez Odile Jacob et Anne-Clémentine Larocque. Votre livre qui sera bientôt publié par les presses universitaires de France, L'islamisme au pouvoir Tunisie, Égypte, Maroc.